Salut!
Bye.
Vive le Canada!
Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le pit stop avec Denis Gravel, 7h55. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iaccarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca est avec nous ce soir. Maître Bellemare, comment allez-vous?
Eh, hey, très bien. On est chanceux au Québec, hein? On a une température qui nous conserve.
Oui, c'est ça. Mais il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, hein? Parce que quand on va voir chez nos voisins américains qu'on aime tant, là, parce que j'ai pas le Trump syndrome derangement, là, ce qui fait en sorte que je peux aller aux États-Unis sans capoter. Je pense qu'il y a quoi? À peu près 50% des Américains qui n'ont pas voté pour Donald Trump. Donc, ils méritent pas qu'on n'aille pas dans leur magnifique pays. Quand on va aux États-Unis et on regarde des gens qui ont à peu près la même âge que nous, le soleil a eu leur effet sur leur peau. Ils ont de l'air plus vieux que les Canadiens.
Ils sont plus gros.
Non, mais...
ils sont plus gros puis ils sont plus vieux, c'est sûr, parce qu'ils ne se protègent pas aussi, hein, parce que, écoute, les gens de 55 ans et plus, disons, là,
ouais.
Je le sais parce que je suis plus dans bracket fin 60, là, mais je peux te dire que, petit gars, là, nous autres, on avait des coups de soleil à chaque été avec des cloches dans le dos, puis on ne dormait pas pendant 2 jours tellement on était au soleil, puis on prenait... des lotions, mais c'était des lotions catalysantes. C'était des lotions qui accéléraient le bronzage.
Ben oui, de l'huile.
On protégeait contre le bronzage. C'est ça, de l'huile hawaïenne, quelque chose. Là. On mettait ça, là, puis on favorisait le bronzage. Donc, on accélérait le vieillissement de la peau. Et c'était comme ça. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec des mélanomes, des cancers de peau. Les dermatologues sont morts de rire parce que les bureaux sont pleins, les listes d'attente sont interminables. À cause de ça. Alors, les Américains, eux, qui ont vécu ce soleil-là 365 jours par année, ont plus de problèmes encore que nous, parce que nous, c'était surtout l'été, hein, à l'époque, les
ouais.
Québécois.
Mais c'est vrai, vous me rappelez des souvenirs. Ma mère mettait cette fameuse huile accélérante, là, puis il bronzait comme pas possible. Mais effectivement, pour tous ceux qui se font bronzer chaque jour ou qui allaient dans le salon de bronzage, ils ont de l'air un petit peu plus vieux que la moyenne des ours. Mais quand vous avez parlé des gros États-Unis, faites attention, là, on est sur le point dans les prochaines années, là, puis c'est pas dans 100 ans, là. Dans les prochaines années, on est sur le point d'y rattraper, là, au niveau du pourcentage des gens qui sont considérés comme obèses, là, par les médecins. Là. On est en train d'y rattraper.
J'en doute qu'on atteigne le même niveau parce que, écoute, c'est sûr qu'on prend du poids. Les gens mangent pas nécessairement mieux, ils mangent plus qu'avant. Ils vieillissent plus vieux aussi. On vit plus vieux aujourd'hui, hein, comme disait l'autre. Le monde ne meurt plus. Les fonds de pension sont en train de poster tellement les gens vivent vieux puis sont pensionnés plus longtemps. Mais puis ça peut peut-être jouer sur le poids aussi, parce qu'évidemment, à 60-70 ans, on est un peu moins conditionné qu'à 25-30 ans, c'est normal. Mais en même temps, moi, quand je vais aux États-Unis, puis je vais dans des endroits où il y a de la baignade, etc., où il fait un peu plus chaud, je suis toujours frappé par l'envergure des Américains. Puis si tu fais des croisières, c'est encore pire. Moi, j'ai fait des croisières au début des années 2000, aux États-Unis, et j'en revenais pas de voir comment il y avait des gens qui étaient obèses pathologiques, là, graves. Là. Sur les croisières, on en retrouve plus parce qu'on se déplace moins, on marche pas sur des bateaux. Hein. Il y a des ascenseurs, 10-12 étages, et tu as une manifestation d'obésité encore plus frappante que sur les plages. Sur les plages, tu dois marcher. Les gros obèses qui ont de la misère à marcher, à se déplacer, 300-400 livres et plus, là, ils vont souvent dans les croisières. pour ne pas avoir à marcher. Et là, on voit que c'est... je veux dire que les portes des ascenseurs sont pas mal larges.
J'ai les chiffres là, que je suis en train de vérifier actuellement là, concernant le taux d'obésité aux États-Unis versus le Canada. Si on prend les hommes au Canada versus les hommes aux États-Unis, les Canadiens, à 24 % on considère qu'ils sont obèses. Et chez les Américains, là, on est rendu à 33 % pour faire un chiffre rond. Donc, un tiers des Américains sont considérés comme obèses. Et pour ce qui est des Canadiens, c'est, 25 % des Canadiens qui seraient considérés comme, comme obèses, Maître Bellemare.
Oui, bon, écoute donc. Puis là, c'est, tout dépend de la notion d'obésité. Je ne sais pas si moi-même... Je rentre dans cette notion-là à 6 pieds et 212 livres à peu près, je pense que oui, parce que mon poids santé, moi, ce sera à peu près 185, puis je suis plus que ça. Alors,
mais vous avez juste à dire, vous avez juste à dire comme moi, je dis que j'ai des gros os.
C'est ça, mon père. Mon père disait ça à l'époque, il disait « Les Bellemare, on a les os pesants ». C'est sa façon de se disculper de son… Lui, il avait vraiment un bon bedon.
Ouais.
Alors, mais écoute, ça dépend. Est-ce que obésité, ça veut dire que tu es au-delà de l'indice, l'IMC qu'on appelle, l'indice
corporel?
Si c'est ça, ben là...
Écoute, ça vient avec, ça vient avec.
1 sur 4, je comprends ça.
Je me souviens de mes oncles quand j'étais petit, je devais avoir 7-8 ans, puis il y avait des grosses bedaines. Là. Mes oncles avaient des bedaines comme des femmes enceintes, puis ils demandaient aux jeunes de frapper dans la bedaine pour dire « Regardez à quel point c'est dur, ma bedaine! » Vous me rappelez des souvenirs,
ouais.
Maître Bellemare?
Oui, c'est ça. Mais écoute, quand j'étais petit gars, nous autres, on était 3 garçons et une fille à la maison. Puis mon père, 5 pieds 10, à peu près 220 livres. Alors oui, il avait un bon bedon. Et on riait de lui, hein. On disait ça. Puis ma mère nous disait, « Ah, 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 attendez d'avoir 40 ans. » Et quand j'ai eu 40 ans, peut-être plus 45, j'ai compris ce qu'elle voulait dire.
Ouais.
Parce qu'à un certain moment donné, on a beau... manger moins, on a beau faire de l'exercice, on a l'impression qu'on a beaucoup plus de difficultés à perdre du poids qu'avant 40 ans. Alors, ouais. Il y a comme une question métabolique aussi là, qui joue.
Passons donc au sujet un peu plus sérieux pour le reste de la soirée, Maître Bellemare, dans le podcast de Mars au soir. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer vendredi. Je me suis levé avec ça vendredi matin. Moi, je déteste pas Trump. Je trouve que c'est un personnage particulier. Il nous reste à peu près 3 ans à l'endurer, tu sais. Puis je me dis qu'à un moment donné, ça va passer. Je fais partie de ceux qui ont apprécié le premier mandat de Donald Trump. Je trouve que pour un premier mandat, quand je regarde la colonne des plus et des moins, rendu en bas, il y avait un petit plus. Pas un plus très foncé, mais c'était un petit plus. Et quand on était en élection présidentielle aux États-Unis, je disais aux gens qui avaient justement le Trump Syndrome Derangement, là, paniquez pas, ça va être à peu près comme le premier mandat. Et les gens disaient « Non, ce gars-là va changer la face du monde, il va changer les choses, il nous fait peur, patati patata. » Je pense que la vérité est peut-être entre ce que moi je disais puis ce que eux disaient. Mais comme première année de mandat, je ne mettrais pas un plus dans le bas de la feuille, je peux vous le dire. Puis avec ce qu'il a fait vendredi dernier, je ne suis pas quelqu'un qui aimait Barack Obama. Je suis pas quelqu'un qui appréciait non plus Michelle Obama. Là, je les regardais, puis tu sais, c'était au même titre que Donald Trump à mes yeux. Là, bon, c'est des gens qui sont loin de nous. C'est les États-Unis, c'est le président des États-Unis avec la première dame et tout ça. Mais dans la vidéo de Donald Trump, une vidéo qui dure quand même plus d'une minute, là, on voit que le gars se accuse encore les élections où il a perdu contre Joe Biden, accuse encore de s'être fait voler ces élections-là. Et à la fin de la vidéo, on voit 2 gorilles. Et sur la tête des gorilles, singes ou gorilles, là, je sais que c'est pas la même affaire, mais je pense que c'est des singes. On voit que les têtes ont été remplacées, puis on a mis la photo de Barack Obama et de sa conjointe Michelle Obama. C'est l'homme le plus puissant des États-Unis. Depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, on tente de lutter contre les racistes. Et le président utilise une image raciste pour tenter de détruire les Obama, qui seraient selon lui derrière la magouille pour faire élire Joe Biden. quelle bassesse que Donald Trump a fait vendredi matin. Je voulais vous entendre là-dessus, Maître Bellemare. Ça a-tu du sens? T'es l'homme le plus puissant de la planète. Dans ton Secret Service, il y a des Noirs. Dans ton armée, il y a des Noirs. Puis toi, ben, tu utilises cette image-là pour ridiculiser les Barack Obama puis Michelle Obama. Mais tu penses pas aux gens qui sont en dessous. Tu penses pas aux Américains qui sont nés en sol américain puis qui sont noirs. Je comprends ouais. pas ces gestes-là.
C'est inacceptable. C'est inacceptable même pour n'importe qui. Même dans un milieu de travail, dans une famille, dans n'importe quel milieu social, d'agir comme ça, c'est inacceptable. Il se discrédite, M. Trump, et c'est malheureux, mais il continue de faire des choses ridicules. Il y a des choses qu'il fait qui sont acceptables. Mais il y a d'autres affaires comme ça, ça lui donne quoi, là, tu sais, de ridiculiser Obama? C'est sûr qu'il le voit dans sa soupe, et je me souviens d'avoir vu... c'est lui, d'ailleurs, Trump, qui avait remis en question la naissance de Obama, hein, en disant qu'il n'était pas né aux États-Unis, qu'il était né ailleurs, parce que pour être président des États-Unis, il faut que tu sois né aux États-Unis.
Ouais.
Et Trump avait, à l'occasion de sa campagne... sa pré-campagne pour être à la tête du Parti républicain, si mon souvenir est fidèle, c'est en 2015, dans l'occasion des débats, il avait remis ça en question en disant que c'est Obama n'est pas américain et puis il n'y avait pas d'affaire à être président des États-Unis parce qu'il faut comprendre qu'Obama était président là, de 2008, je pense, à 2016. Alors, c'était dans ce temps-là, là, c'était un peu pour la suite du mandat, du dernier mandat d'Obama, puis il remettait ça en question. Et aussi, il y avait, on dit qu'Obama a été à l'origine de l'idée de Trump de se présenter à la présidence, parce qu'il y a ce qu'on appelle les soupers de la presse, hein, ça se fait aussi au Québec, la tribune de la presse qui rencontre le premier ministre du Québec une fois par année, puis là, c'est en circuit fermé, puis là, ils se lancent des bins, puis des jokes, puis ils font des allusions, puis là, ils se parlent dans le nez, comme on dirait, puis tout le monde rit, tout le monde a bien du fun. Ça existe également aux États-Unis,
ouais.
Avec la tribune de la presse américaine, et je sais qu'une fois, c'est d'ailleurs sur YouTube, là, je sais que quand Obama avait fait ce souper de presse-là, M. Trump était présent, et Obama avait un peu ri de Donald Trump, en disant, bien, il paraît qu'il veut se présenter à la présidence, puis ha, 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 puis tout le monde avait bien ri de ça. Et on dit dans la petite histoire de Donald Trump que Trump aurait été tout à fait humilié par cette boutade que Obama lui avait lancée. Et ça a l'air que c'est ce jour-là que M. Trump a dit, bien, moi, je vais tenter ma chance, puis je vais devenir un jour président des États-Unis. En tout cas, c'est une longue histoire, puis là, il exagère, puis là, il est rendu à faire des conneries comme ça, puis à illustrer... Obama et sa femme comme des singes. Là. C'est, écoute, moi, j'en reviens pas. Et il perd beaucoup, beaucoup de crédibilité. Et je pense que, je ne sais pas s'il est en train de se dire qu'il ne sera pas là à la fin de son mandat, parce que normalement, il ne devrait pas l'être, compte tenu que c'est la fin de son deuxième mandat, compte tenu de la Constitution américaine. Mais moi, je de plus en plus, je pense qu'il faut qu'il disparaisse la carte. Il faut qu'on passe à autre chose, parce que c'est rendu tellement bas. Puis en fin de compte, Obama n'est pas un adversaire aussi. Là. Tu sais, il menace pas dans son pouvoir. Obama est tout à fait discret. Et c'est un des présidents les plus populaires de l'histoire américaine. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas Nixon. Là. C'est un gars qui est parti dans le discrédit, puis dans la disgrâce, puis dans l'humiliation. Là.
Exact.
Obama a encore aujourd'hui la cote chez les Blancs comme chez les Noirs aux États-Unis. C'est un des plus populaires. Clinton aussi. Alors, c'est des présidents qui ont marqué l'histoire et il n'y a aucun intérêt, si ce n'est la vengeance et la bassesse qui témoigne d'un problème chez lui, chez M. Trump. Et la présidence, c'est pour l'ensemble des États-Unis d'Amérique. C'est pas pour c'est son petit côté mesquin et ses petites vengeances. Là. Ça ne donne rien, puis il n'est pas élu pour ça. Là.
Mais Maître Bellemare, au niveau du deuxième étage, ce qui se passe dans sa tête, parce que, bon, Trump, on l'a dit il y a deux semaines, vous et moi, il approche 80, là, si je ne me trompe pas, et ouais. T'sais, on se posait la question, il se promène tout le temps en avion, il tweet tout le temps à toute heure du jour et de la nuit. Puis en fouillant un peu, on s'était aperçu que Donald Trump, c'est pas le seul qui tweet sur ses réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont là pour tweeter. Puis souvent, ben, il y a des tweets qui peuvent être programmés sans aucun problème. Mais je me pose la question, Maître Bellemare, t'sais, qui dans ses conseillers qui est moindrement constitué. Mettons un gars comme moi qui se considère avec un QI là, comme la moyenne des ours qui nous entourent. Je suis dans la moyenne. Là. Puis là, Trump m'a fait part de bon ses histoires de Joe Biden, ses élections qu'il a perdues. Puis là, ben, il veut montrer des preuves avec sa vidéo. Bon, OK, je peux le laisser faire ça, même si ça n'a pas de bon sens. C'est Donald Trump, ça fait partie du personnage. Mais à partir du moment où je vois cette vidéo-là, où on a mis sur la tête de deux singes les têtes de Barack Obama et de Michelle Obama, mon premier réflexe, c'est de dire à Donald Trump, c'est parce que ça va peut-être faire mal à Michelle Obama de se voir dans cette situation-là. Ça va peut-être faire mal à Barack Obama de se voir dans cette situation-là. Mais tous les gens qui sont de race noire aux États-Unis, M. Trump, vont être outrés de cette image-là. Je vous déconseille fortement de mettre cette vidéo-là. Ben, il l'a fait pareil. Fait, es-tu si bien entouré que ça? Parce que c'est,
non, il n'est pas entouré. Il n'a que lui. Là. Trump, c'est un solitaire absolu. Là. Il est entouré matériellement, mais il n'est pas entouré psychologiquement. Il n'est pas entouré stratégiquement. Il n'écoute pas ses conseillers. D'ailleurs, c'est porte tournante, même dans son premier mandat, c'est porte tournante chez ses conseillers. Il n'écoute personne. Il n'écoute pas sa femme non plus, très certainement, pour peu qu'elle puisse lui parler et le conseiller. Il n'écoute personne, alors il fait à sa tête, et ça, c'est vraiment mesquin. Et tu as raison, on pourrait mettre la tête de n'importe quel noir, non seulement américain, mais du monde entier, parce que les États-Unis, c'est un pays important. Alors, ces vidéos-là vont circuler partout dans le monde, en Asie, en Afrique, en Australie, en Europe, etc. Alors, si c'est rendu chez nous, c'est rendu partout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Alors, ça attise une forme de racisme, une forme de ridicule fondée sur le racisme. Et c'est non seulement les communautés noires du monde entier qui sont visées, mais les communautés de couleur, et aussi les Blancs qui sont, comme toi et moi, outrés par cette façon d'agir dans un contexte où on a, depuis 50 ans, développé de par le monde des constitutions, des chartes, des lois qui protègent, qui empêchent le racisme, des recours. Ouais. Et là, voici que l'homme le plus puissant de la planète se comporte comme le dernier des imbéciles. C'est triste. Et on se demande, là, le temps qu'il fait ça, là, Trump, là, il s'occupe pas de l'Ukraine, puis il s'occupe pas du Venezuela, puis il s'occupe pas du Canada, puis il s'occupe pas de l'OTAN, puis il s'occupe pas des autres affaires. Il y a des missions tellement fondamentales, tellement importantes à respecter dans le cadre de son mandat que le temps qu'il fait ça, ben, on se dit, il y a du temps à perdre, puis pourtant, il y a tellement de problèmes à l'intérieur même de son propre pays ouais. à régler que plutôt que de s'occuper de ICE, là, il s'occupe d'Obama pour faire des dessins et des conneries.
Mais c'est que je pense.
À quel point là, il est mêlé dans ces controverses. Quand tu parles de la question de la santé mentale, la question se pose aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se demander s'il n'est pas retombé en enfance, là, si ce n'est pas un individu là, qui est en train de dépérir au plan mental. On a vu Biden dans les débats, mais effectivement, ça peut le toucher lui et puis ça donne prise à tous ceux qui pourraient remettre en question son équilibre psychologique.
Maître Bellemare, c'est que je pense à sa garde rapprochée, le Secret Service. Il n'y a pas juste des Blancs dans le Secret Service, là. Il y a des Noirs dans le Secret Service. Et je pense aux gens qui vont combattre ailleurs dans d'autres pays pour la liberté. Ces gens-là sont Américains, sont Noirs, sont nés en sol américain, puis qui voient une affaire comme ça. T'sais, attends un peu, je me bats pour quoi, finalement? Même mon président est un putain de raciste, là.
Oui, c'est ça, effectivement. Là, il n'y a plus d'argument pour dire qu'il ne l'est pas. Il l'est très certainement. Et on peut comprendre, tu sais, le vieux dicton qui dit « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en ». Ça peut peut-être valoir quand tu es dans une course au leadership, dans un parti ou dans un gouvernement quelconque ou que tu es en quête de visibilité absolue. Ouais. Il n'a pas besoin d'être en quête de visibilité, Yannick. Là, il est président des États-Unis, sa visibilité, il l'a du matin au soir. Mais il faudrait qu'il l'aille pour les bonnes raisons. Puis comme je te dis, le temps qu'il fait ça, ben, il discrédite son pays, discrédite son parti, il se discrédite lui-même et il ne s'occupe pas des missions fondamentales de l'État américain. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de besoins de ce côté-là.
Dans des dossiers qui nous touchent peut-être un peu plus, c'est un dossier de chez nous. On parle de la prison à la maison pour un homme qui a agressé 3 fois une jeune fille de 13 ans. On parle d'un homme de 61 ans qui a été déclaré coupable d'avoir agressé sexuellement à 3 reprises une fugueuse de 13 ans d'un centre jeunesse, s'en est tiré avec de la prison à la maison. Prison à la maison, donc ni la couronne ni la défense ne peut expliquer. Même la juge, Maître Bellemare, a pas donner la moindre explication pour justifier cette peine. C'est un article de la presse de la semaine dernière sous la plume de Louis-Samuel Perron. Le gars s'appelle Asher Saba et avec l'aide d'une application, ben, l'adolescente a approché l'homme et l'homme a tout simplement profité de la situation pour l'agresser sexuellement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un viol d'une jeune fille de 13 ans, ben, 3 fois, en fait, qu'il l'a agressé sexuellement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Canada, on permette que le gars puisse purger sa sentence à la maison? Comment on explique ce jugement-là, Maître Bellemare? Même le juge ne veut pas s'expliquer. Là.
Oui. Mais écoute, d'abord, à 13 ans, on ne peut pas consentir à un rapport sexuel. C'est formellement interdit par le code criminel, surtout avec une personne de cet âge-là. C'est clair qu'il y a agression sexuelle, automatiquement. Moi, ce qui me dépasse, c'est qu'on puisse, dans ce cas-ci, permettre une peine dans la communauté, ce qu'on appelle les peines Netflix, là, les peines à maison, là, tu sais ce que ça veut dire. Là. Tu peux travailler à la maison, tu peux recevoir des amis à la maison, tu peux écouter des films à la maison, tu peux faire des parties à la maison, tu peux faire n'importe quoi. Puis souvent, il y a même des autorisations de sortir. On parle de peine à la maison, mais tu peux peut-être aller voir ton docteur, tu peux peut-être aller fréquenter telle ou telle pharmacie ou telle ou telle institution. On ne sait pas dans ce jugement-là, je n'ai pas vu le jugement clairement, mais M. Perron est un journaliste sérieux et c'est clair qu'on n'a pas motivé la question. C'est-à-dire que le juge, la couronne n'ont pas expliqué pourquoi ça devait être une peine dans la communauté, parce qu'en principe, c'est une peine de prison, mais qui peut être purgé dans la communauté en autant que c'est expliqué. Parce que le principe, c'est la prison, mais l'exception, ça peut être une peine dans la communauté en autant que le juge considère que c'est requis, que c'est indiqué, que l'aspect punitif est respecté, que l'exemplarité est respectée, en principe, tous les principes de sentencing qu'on retrouve dans le code criminel. Mais plus fondamentalement encore, je trouve aberrant que le Code criminel canadien, et c'est le cas depuis 2022, ça c'est un cadeau de Justin Trudeau, là, puis de David Lametti, qui était ministre de la Justice à l'époque, de permettre des peines dans la communauté dans les cas d'agression sexuelle. On en a parlé à quelques reprises, c'est la loi C-5 qui a été votée par le Parlement canadien avec les libéraux de Trudeau et qui a permis des peines dans la communauté dans des cas d'agression sexuelle. Et je sais qu'en 2023-2024, on avait à peu près un tiers des peines qui étaient purgées dans la communauté, des peines de ce type-là, d'agression sexuelle, et que le ministre de la Justice du Québec, Jolin Barrette, avait formellement dénoncé, de même que le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, avait formellement dénoncé auprès du fédéral cette loi C-5 qui permet des peines dans la communauté dans les cas d'agression sexuelle. On n'a pas eu de suite de ça. Le ministre de la Justice, Jolin Barrette, ne s'est pas manifesté depuis, mais on voit que c'est un peu rentré dans les habitudes. C'est un peu banalisé, là. Autrefois, on s'est dit, quand le code criminel a été modifié, ça n'a pas de bon sens, qu'on peut peut-être permettre des peines dans la communauté dans des crimes beaucoup moins importants, mais des agressions sexuelles sur des mineurs. Yannick, ça n'a aucun bon sens que ce gars-là ne soit pas en prison, parce que les peines dans la communauté, quoi qu'en disent certains, à la maison, c'est pas comme en prison. En prison, tu as une forme d'introspection qui est nécessaire. En prison, tu es privé de liberté, tu es privé de contacts sociaux, tu es privé de tes facilités domestiques et quotidiennes. Alors, tu es obligé de réfléchir sur ton sort, tu es obligé de réfléchir sur ta condition, tu es obligé de rencontrer des gens qui vont t'aider à comprendre que ça ne se fait pas agresser une petite fille de 13 ans, mais dans la communauté, tu n'as pas le même encadrement, puis tu n'as pas les mêmes pressions. Alors, on voit que c'est banalisé parce que ça a été accordé quasiment automatiquement comme étiquette d'autobus là, dans ce dossier-là. Fait que c'est pas normal.
C'est particulier parce que vous m'aviez expliqué cette nouvelle loi-là qui rentrait en place, les possibilités pour les juges de donner des peines à la maison. Puis vous m'aviez mentionné l'origine de tout ça. C'est qu'on avait vu qu'il y avait une trop grande représentativité des gens des Premières Nations dans nos pénitenciers fédéraux. Et il y avait une trop grande représentativité des personnes noires dans nos pénitenciers fédéraux. Et ça semblait gêner Justin Trudeau parce qu'on regardait les populations et on disait « Attends, les chiffres sont peut-être un peu trop élevés. » Donc le juge ne peut pas faire de différence entre une personne blanche et une personne noire. Donc ça l'a permis à un peu monsieur et madame tout le monde, finalement, de s'en sortir après avoir fait des viols, ben finalement, tout le monde peut retourner à la maison sans aucun problème.
Ben c'est ça. Alors, écoute, d'ailleurs, monsieur Saba n'est pas un autochtone ni un noir. Alors, cette loi-là, la C5, a été votée sous le prétexte qu'il y avait surpopulation de certaines personnes racisées dans les pénitenciers, les autochtones aussi. C'était le titre du projet de loi, c'était le prétexte pour ce projet de loi-là. Mais dans les faits, il y a des Blancs qui en profitent et qui ne sont pas visés spécifiquement par cette loi-là ou cette modification-là au code criminel, par la loi C5. Alors, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de Québécois de race blanche qui en profitent. Et je te le dis, c'est rentré un peu dans le day-to-day de la justice criminelle. Et ce que nous rapporte le journaliste ici de la presse, c'est que on cite, là, H.R. Saba a plaidé coupable à une accusation de contact sexuel sur une mineure en décembre dernier au palais de justice de Laval. La procureure de la Couronne a alors résumé les faits de la cause en à peine 5 ou 6 phrases. Alors, c'est de la poutine, là. C'est comme de la répétition, là. On s'aperçoit que c'est devenu, comme dans l'industrie de la justice criminelle, un cas relativement banal, alors que c'est pas ça, là. C'est quand même une agression sexuelle répétée sur au moins 3 fois par un homme blanc sur une jeune fille de 13 ans. Moi, écoute, je suis pas d'accord avec ça. Je continue de dire que le gouvernement devrait révoquer cette loi-là, interdire toute forme de peine dans la communauté pour toute forme d'agression sexuelle.
Ouais.
Et je ne sais pas si M. Carney nous écoute aujourd'hui avec son ministre de la Justice, mais j'ai hâte qu'il passe aux actes et qu'il fasse ça, parce qu'il pourrait le faire, compte tenu du fait qu'il y a eu énormément de tollé au moment où cette loi est entrée en vigueur, mais il n'a pas l'air à vouloir bouger de ce côté-là. Alors, peut-être ce cas-ci va l'amener à la raison, espérons.
Dans l'article de monsieur où on parle justement de H.R. Saba, qui a plaidé coupable à une accusation de contact sexuel sur une mineure et le juge lui a permis de purger sa sentence à la maison, on parle d'un processus de facilitation qui n'est pas une audience publique. Il s'agit d'une conférence à huis clos aux règles plus souples permettant aux avocats de débattre sous la supervision d'un juge. Donc, autant la victime que les gens concernés ne peuvent pas être à l'intérieur de ce processus-là. Comment ça se passe, puis pourquoi on fait ce processus de facilitation?
Bien, c'est la couronne de la défense. On appelle ça du plea bargaining. C'est qu'il y a comme un deal qui se fait entre l'avocat de la défense et qui, lui, recherche évidemment ou bien un acquittement ou bien une peine le moins sévère possible. Dans ce cas-ci, on ne peut pas dire que la défense n'a pas réussi. Mais c'est la couronne qui fait office de représentant de l'accusation, parce que dans le processus de justice criminelle au Canada, les victimes ne sont pas parties. Alors, tu ne peux pas faire un plea bargaining, un deal sur une peine comme celle-là, en disant on va mettre 3 parties, c'est-à-dire la couronne, le DPCP, la victime et la défense. La victime est là qu'elle regarde. C'est sûr que le procureur de la couronne peut l'appeler, il peut jaser avec, puis dire écoutez, madame. Qui avait aujourd'hui 14-15 ans, je ne sais pas trop, là, la petite fille avait 13 ans à l'époque,
ouais.
On a décidé d'accepter tel, ben, c'est même pas nécessaire. J'ai beaucoup de cas de victimes au bureau, moi, qui apprennent la peine qui a été négociée dans les journaux ou au palais de justice ou même d'une autre façon. Ils ne sont pas nécessairement impliqués, les victimes, ils sont simplement témoins Ils peuvent être appelés à témoigner quand il n'y a pas de plaidoyer de culpabilité, quand il y a un procès. Mais sinon, ils sont complètement dehors du processus et c'est au DPCP qu'on fait confiance dans ce processus-là. Et c'est au DPCP qui doit agir. C'est le DPCP qui doit agir pour exiger la peine la plus sévère. Alors, dans ce cas-ci, on peut pas dire que c'est un gros succès là, d'avoir accepté une peine dans la communauté sans explication, avec, selon ce que nous dit également la dépêche, là, c'est une solution commune, une peine commune qui a été proposée de 2 ans moins un jour d'emprisonnement dans la collectivité. Il devra rester chez lui pendant la première année. Alors, c'est même pas une peine dans la communauté, à la maison, pendant 2 ans strict. Là. Il y a plein d'accommodements qui ont été consentis à cet homme-là. Moi, je suis renversé. Ça prendra un changement en code criminel. Ça prend un gouvernement à Ottawa qui va changer le code criminel puis qui va imposer des peines d'emprisonnement dans tous les cas et empêcher les juges de prononcer des peines dans la communauté pour des cas d'agression sexuelle. C'est ça, elle a la solution.
Est-ce que la défense avait un manque de confiance en elle? Parce qu'on apprend aussi dans ce même article-là que ce pourri-là qui avait agressé sexuellement une jeune fille de 13 ans, à la mi-janvier, donc ça fait déjà quelques jours, là, Asher Saba a été acquitté de crimes sexuels sur une mineure par le juge Simon Dolci. Il était accusé pour des gestes allégués qui seraient survenus en 2006. La Sûreté du Québec avait médiatisé l'arrestation d'Asher Saba en 2021 afin de chercher d'autres victimes potentielles. Le suspect repérait ses victimes sur différentes plateformes de discussion en utilisant, par exemple, le pseudonyme Adam. Il y avait échange par message texte, conversation téléphonique suivie de rencontres où les infractions a été commise. Le suspect pourrait avoir fait d'autres victimes non identifiées à ce jour. Et ça, c'est ce qu'écrivait la Sûreté du Québec dans un communiqué. Mais dans un autre dossier, à la mi-janvier, il avait été acquitté de crimes sexuels. Est-ce que la défense avait tellement pas confiance que c'est justement, ils ont décidé de négocier avec la Couronne?
Je ne sais pas, Yannick. Je ne suis pas dans le secret des yeux pour savoir quelles sont les motivations profondes d'un puis de l'autre, mais c'est certain que le rôle de l'accusation, donc du DPCP, dans le processus de justice criminelle, c'est d'obtenir des condamnations lorsqu'elle est moralement convaincue d'obtenir une condamnation. C'est d'obtenir la peine la plus sévère possible, la plus représentative du crime qui a été commis. Et puis la défense, évidemment, c'est le rôle contraire, comme dans n'importe quel procès. La défense cherche, à défaut d'avoir un acquittement, s'il y a une preuve solide de condamnation, de culpabilité, c'est d'obtenir la peine la moins sévère. Mais dans ce cas-ci, on ne peut pas dire que la défense n'a pas obtenu gain de cause. C'est certain que ce monsieur-là s'en tire à bon compte.
On est avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST. Ben, c'est bellemareavocat.ca. On fait une courte pause, puis on vous revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le segment que personne ne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Charles Milliard, il y a 65% des gens qui le connaissent pas, puis il y en a qui seraient prêts à y donner le volant pour diriger le Québec.
Les gens ont plus de recours, les gens manquent de personnalité, les gens manquent de challenge, les gens manquent de rêve. On n'a rien de tout ça en politique. On augmente le taux de cynisme. Faut jamais que je gagne. Moi, je suis un cynique, ça fait des années que je vote plus, j'ai toujours le même discours. Je vais aller voter quand je vais être excité de voter pour quelqu'un, pour un parti, pour quelque chose. Puis il va venir me toucher au cœur, va venir me toucher au cerveau, va venir me stimuler puis me donner ce que j'appelle une érection politique. Et tant que je ne serai pas bandé politiquement, je vais rester chez nous puis je vais me crosser.
Le Pit Stop de Boulevard 102.1. Lundi au jeudi, 7h55.
À l'occasion du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, Boulevard 102.1 vous invite les 14 et 15 février à Place Fleur-de-Lys pour le FDL Fest. Terrain, patinoire gonflable de mini-hockey, un mini-bâton de hockey Trudel offert aux 500 premiers joueurs, mascotte et plusieurs prix à gagner. Tout pour avoir du fun. En plus, l'escouade Boulevard sera sur place le 14 février avec animation et jeux. Vous ne pouvez pas manquer ça. Pour voir la programmation complète, rendez-vous au fdlcentrecommercial.com. On se voit à Place Fleur-de-Lys.
C'est la grande liquidation d'hiver chez Sale. Jusqu'à 50% de rabais sur une vaste sélection de vêtements et de chaussures. Sale, votre destination plein air 100% québécoise.
Chez Desjardins, on croit que le REER et le CELI sont des sujets passionnants. Mais c'est peut-être pas le cas pour David ici. C'est donc l'heure de réveiller votre intérêt pour le REER et le CELI.
De quoi on parle?
De cotiser un REER et d'utiliser le remboursement d'impôt pour alimenter le CELI à l'abri de l'impôt.
Ça réveille du bon pied.
Cotisez en ligne dès maintenant sur desjardins.com/REER-CELI. Certaines conditions et modalités s'appliquent.
Osez vous perdre dans le bleu infini. Ralentir pour mieux découvrir. Sentez-vous libre, vraiment libre. Les îles de Guadeloupe, ça se prend bien. Disponible en vol direct de Québec.
Expo Moto, présenté par Beneva en collaboration avec les écoles de conduite technique, c'est un salon de la moto plus grand que jamais dans une formule réinventée. Visitez les kiosques de nombreux manufacturiers. Achetez votre moto neuve ou d'occasion sur place, sans oublier le Québec Moto Film Fest et les conférences de Michel Barrette, Hugo Girard et plusieurs autres. Profitez-en aussi pour initier gratuitement les enfants à notre circuit de moto électrique grâce à l'Académie Milolan. De vendredi à dimanche, au centre de foire d'Exposité, place à Expo Moto.
Besoin de plus d'espace, de confort et de sécurité cet hiver? Découvrez le tout nouveau Volkswagen Taos 2026 et obtenez-le à partir de seulement $110,65 par semaine sur 51 mois à 2,99% d'intérêt. Volkswagen Saint-Nicolas. Prenez la route en toute tranquillité.
Que vous soyez seul ou en famille, Logi-Expert a un logement pour vous. Logi-Expert, c'est plus de 4000 logements à Québec et Lévis. Des options pour tous les goûts et les budgets. Trouvez le vôtre dès maintenant sur logiexpert.com.
Les rabais de la circulaire de février sont arrivés chez Mondou. Épargnez jusqu'à 15 $ sur la nourriture sélectionnée pour chats et chiens, jusqu'à 20% sur les gâteries et accessoires et jusqu'à 25% sur les produits de soins et suppléments. D'ici le 11 février, découvrez toutes nos offres en magasin ou au mondou.com.
C'est la grande vente Expo Habitat chez Isolation Beauport. Les taxes sont payées sur nos échangeurs d'air Aldès et plusieurs thermopompes sont offertes avec des rabais instantanés. Pour tous les détails, visitez isolationbeauport.com ou venez nous rencontrer en succursale.
Isolation Beauport.
Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien.
My God, mon amour, t'as pas l'air bien.
Je peux bien faire tout. Je pense que j'ai pogné.
Que t'as pogné quoi?
La gastro!
Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi?
Tout va bien aller. Logisco.
Je peux pas aller au bureau.
Plus de 6000 appartements à Québec.
Pourquoi choisir quand on peut tout avoir? Chez Iris, profitez de 25% de rabais sur les lentilles de votre première paire. Et parce qu'une seule paire ne suffit jamais, obtenez 50% de rabais sur les lentilles de votre deuxième paire. Une paire pour le travail, une paire pour le style, une paire pour le soleil. Même prescription, même vous. Plus de style. Faites vite, l'offre se termine le 1er mars. Visitez iris.ca pour tous les détails. Iris, vision d'exception, style remarquable. Dr Jaël Saint-Jacques, optométriste.
Ce produit pourrait ne pas vous convenir. Veuillez toujours lire et suivre les instructions sur la boîte.
Pimentez votre vie avec Chili Burn Max de New Nordic. Riche en cayenne, thé vert et cumin noir, Chili Burn Max est le supplément minceur numéro 1 en Scandinavie. Depuis plus de 20 ans, des dizaines de milliers d'utilisateurs font confiance à Chili Burn Max de New Nordic pour les aider à atteindre leur objectif de poids. Trouvez-le chez Jean Coutu, Pharmaprix, Family Prix ou sur Amazon et newnordic.ca.
Les 23 et 24 mai à Lévis, Mouvement Freight présente Rush, une simulation High Rocks.
Une expérience sportive intense qui va te faire triper.
Ici, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi vont de pair. Viens te mettre au défi, on s'occupe de l'expérience. Tous les détails sur mouvementfreight.com.
Alto, le projet de train à grande vitesse, est sur les rails. Temps de trajet estimé, Québec-Ottawa, 2h30. Prochain arrêt, une consultation publique près de chez vous. Faites-vous entendre. Visitez altotrain.ca.
Votre retraite vous préoccupe? Vous vivez des changements de vie importants tels un nouvel emploi, une séparation ou le décès d'un proche? Vous vous demandez si vous utilisez toutes les façons de vous enrichir, de sauver de l'impôt, de protéger vos avoirs et de maximiser vos rendements?
Je suis Marc-Antoine Reid, planificateur financier de Marceau le matin à Boulevard.
Enrichissez-vous en toute tranquillité et bénéficiez d'une deuxième opinion et d'un plan financier vivant en prenant contact avec nous dès aujourd'hui.
Équipe Marc-Antoine Reid, IG Gestion de patrimoine, cabinet de services financiers, 1-833, ton plan.
102, la radio rock de la vieille capitale.
Ça, c'est
BLVD.
Boulevard. 102-1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca, spécialiste de l'IVAC, de la CNSST, est avec nous en studio. Si vous avez des questions pour lui, vous pouvez communiquer avec moi sans aucun problème. Il a été aussi ministre de la Justice, donc on peut pas jaser de plein de choses avec Maître Bellemare. C'est toujours un plaisir de lui jaser chaque lundi. Je vais vous parler un petit peu de politique, mais on rentrera pas trop dans la politique intense, là. Juste parler de l'attitude de Bernard Drainville à l'égard de Christine Fréchette dans la course à la chefferie, qui, selon certains, provoquerait un malaise à la coalition Avenir Québec. M. Drainville, qui actuellement est dernier dans les sondages, dans les intentions de vote, n'a pas le choix d'attaquer Christine Fréchette d'une manière ou d'une autre. Il doit frapper dans les endroits où ça fait mal. Et là, on a critiqué le leadership de Mme Fréchette.
Ben oui, puis c'est bien correct. Moi, écoute, Drainville, il dit à Mme Fréchette qu'elle n'est pas branchée sur des sujets quand même assez centraux, là, quand on parle de la question du PEC en immigration, quand on parle de questions sur le système d'éducation, le système de santé, le troisième lien. Écoute, elle devrait avoir une position ferme. Moi, je comprends M. Drainville d'être surpris et d'attaquer Mme Fréchette sur sa valse hésitation. On n'est pas dans un congrès politique, là. Mme Fréchette veut être première ministre du Québec. Alors, c'est comme une campagne électorale.
Oui.
Le vote, c'est comme demain matin, là. Fait que, c'est quoi cette affaire-là? Je vais regarder ça, je vais consulter. Moi, je trouve que c'est du niaisage. Et je comprends M. Drainville de l'attaquer là-dessus. C'est vrai qu'il est en retard un peu dans les sondages, mais à mon avis, ces questions sont parfaitement légitimes. Puis là, de jouer la carte, chez Mme Fréchette et certains de ses alliés, de ses appuis qui disent « Ouais, mais là, c'est pas élégant, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça. » Ben, tu sais, je sais pas, là, tu sais, ça fait... Je trouve que ça nuit un peu à l'image de Mme Fréchette, puis ça, on a l'impression que ça la dépeint comme une femme qui manque un peu d'épaulette, là, qui manque un peu de tonus, et qui manque un peu de posture, de prestance pour la femme qui veut devenir chef de l'État québécois. Moi, je trouve que M. Drainville, à travers ça, marque des points. Je ne sais pas. Là. Pour moi, la politique, c'est un peu ça. Puis Mme Fréchette, qui veut être première ministre du Québec, elle va faire face à l'opposition. Puis l'opposition, c'est pas mal plus tough que ça. Là. On parle des libéraux, on parle des conservateurs, ça va cogner dur. Alors, si elle n'est pas capable de répondre aux pressions de M. Drainville, puis elle trouve que c'est inélégant, ça va ressembler à quoi s'être élu premier ministre du Québec?
Ouais, je comprends très bien votre point. Je sais aussi qu'elle a refusé un troisième débat. Ils vont se contenter que de deux débats. Bernard Drainville voulait débattre avec elle. Moi, si j'étais son conseiller politique à Mme Fréchette, je regarde les sondages et je dis « moins on va faire de débats, mieux ça va aller. Prenez pas de trop grosses décisions jusqu'à maintenant. Ça va bien. » On touche à rien, Maître Bellemare. Moi, c'est ce que je constate actuellement, là, c'est qu'ils font vraiment une belle job avec Christine Fréchette. C'est pas quelqu'un qui est en politique depuis des décennies. C'est la petite dernière, celle qui a pris un portefeuille qui appartenait à un super ministre puis qui semble bien mener ce portefeuille-là, on va se le dire. Elle s'exprime bien. C'est une personne brillante. C'est une personne qui est rassembleuse. Moi, je comprends très bien ses conseillers politiques de lui avoir dit « ben, on se met sur le côté, puis on attend de voir qu'est-ce qui se passe. » Mais de l'autre côté, il faut comprendre Bernard Drainville de vouloir constamment attaquer. Mais les tensions à l'interne, Maître Bellemare, jusqu'à quel point ça va laisser des traces, ça?
Oui, c'est ça, parce que moi, je me demandais, le Conseil des ministres a lieu le mercredi. Normalement, ça commence vers 9h30, 10h, ça finit un peu après dîner, des fois un peu tard, des fois vers 1h30, 2h. Mais là, Legault, qui est encore premier ministre du Québec, lui, c'est le père supérieur, là. Il est au milieu de la table et ses ministres sont là et Fréchette et Drainville sont encore des ministres importants de ce gouvernement-là. Mm-hmm. Fait que là, M. Legault, qui reste en place, doit gérer ça, puis doit gérer un peu l'atmosphère au niveau du Conseil des ministres qui a lieu à toutes les semaines. Ça doit être assez spécial autour de la table. J'ai l'impression qu'il doit y avoir des regards un peu inquiets là, qui se présentent à lui. Et il doit gérer ça. Il doit assurer quand même l'unité de son parti à travers cette campagne au leadership.
Mm-hmm.
En restant sur place, c'est pas comme un premier ministre qui est décédé. Puis là, on voit que les les autres ministres s'affrontent avec un vice-premier ministre ou quelqu'un qui prend la place du premier ministre, c'est encore M. Legault qui est sur place. Il a décidé de rester là jusqu'à temps qu'il soit remplacé. Alors, mais en même temps, il ne peut pas empêcher M. Drainville de poser des questions puis d'être assez caustique dans ses attaques. Mais sur la question du troisième lien, par exemple, je ne comprends pas comment Mme Fréchette peut avoir des hésitations. Elle est pour ou elle est contre? Comment peut-elle, alors que ça fait l'objet de deux engagements électoraux fermes de la CAQ en 2018, en 2022, il y a eu une petite période où le gouvernement s'est retiré de cette promesse-là, là, si je me souviens bien, en 2023, jusqu'à l'élection dans Jean Talon où Pascal Paradis a scoré avec une majorité de 10 000 voix, où là, Legault est revenu avec la promesse en disant « oui, on va le faire, le troisième lien ». Comment Mme Fréchette peut-elle dire qu'elle n'a pas de position? Moi, je pense que si elle n'est pas d'accord, elle devrait dire qu'elle n'est pas d'accord, qu'on n'a pas les moyens, que ce n'est pas le temps et que ça ne fait pas l'objet d'un engagement électoral de son parti si jamais elle est élue à la tête de la CAQ et première ministre du Québec. Mais tu sais, de dire « on va regarder ça et on ne sait pas ». Moi, je trouve que M. Drainville, il marque des points là-dessus parce qu'il la présente comme quelqu'un qui est indécise. Puis des indécis à la tête du Québec, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens qui sont fermes sur des questions aussi importantes que celles-là. On parle d'un projet de 10 à 15 milliards dans la région de Québec. Il faut qu'elle ait une position. Il ne faut pas qu'elle dise « je vais regarder ça ».
Puis on reproche à Montréal d'être très centralisatrice là, en raison des décisions, des grosses décisions du Québec qui se prennent à Montréal avec François Legault et son équipe. Mais je pense qu'elle a raté une très bonne opportunité justement de dire aux régions « savez-vous quoi? C'est vous qui décidez ce qu'il y a de mieux pour votre région. » Au même titre que quelqu'un qui... une communauté qui veut quelque chose à cette île, est en mesure de juger ce qu'elle a de besoin. Les gens du Saguenay, même affaire. Tu sais, jamais quelqu'un s'est opposé à un projet qui touche Montréal, Maître Bellemare, là. Jamais oui. C'est arrivé, ça, là.
T'as raison, mais pour Québec et même pour le Québec, écoute, si t'es contre le troisième lien, ben t'as intérêt à savoir ce que l'éventuel premier ministre pense du projet. Si t'es pour le troisième lien, t'as également intérêt à savoir sa position. La pire des positions, c'est de ne pas savoir. Rendu où on est, là, à quelques mois de l'élection générale. Alors, ça ne peut pas tenir. Là. Il va falloir qu'elle se branche, puis qu'elle dise oui ou qu'elle dise non, puis qu'elle l'assume. Parce qu'on a souvent dit que Paul Saint-Pierre Plamondon avait du succès dans les sondages parce qu'il est clair.
Ses positions sont claires.
Ils sont pas d'accord avec le référendum.
Oui.
Qui vont voter non au référendum apprécient cette clarté, cette vision claire, cette position claire.
Ouais.
C'est ça que les gens veulent. Ils sont écœurés du taponnage, puis du niaisage, puis des moitiés de réponses. Là. Et je trouve que sur le troisième lien, comme sur d'autres enjeux, Mme Fréchette, avec ses réflexions à venir, là, on n'est plus là. Le vote, c'est imminent. Et c'est, comme je te dis, elle s'en va pas à la chefferie d'un parti politique, elle s'en va à la tête du Québec, parce qu'elle deviendra, si elle est élue, première ministre du Québec. Puis les gens ont des attentes comme première ministre du Québec, beaucoup plus que comme chef de la CAQ. La question d'être chef de la CAQ, ils s'en foutent un peu, là. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une première ministre qui va être fiable et qui va nous donner des instructions sur des dossiers fondamentaux. Et l'incertitude... je vais regarder ça à quelques semaines du vote. Là. Moi, je trouve que c'est inacceptable. Il va falloir qu'elle change sa stratégie parce que, à mon avis, ça donne du gaz à M. Drainville.
OK. Bien, j'ai hâte de voir les sondages qui vont sortir. Il y en a probablement qui vont sortir cette semaine. Là. Mais actuellement, elle a le vent dans les voiles. Les gens ne le connaissent pas. Au même titre que Paul Saint-Pierre Plamondon, Maître Bellemare, les gens ne le connaissent pas tant. Il y a le vent dans les voiles. Puis la majorité des Québécois, même s'ils vont voter pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ben ne veulent pas du référendum. C'est particulier. Le Québec est très particulier, là.
Oui, c'est ça. Mais tu vois, pendant qu'on parle de ça, et pendant que Mme Fréchette fait preuve d'une certaine mollesse, à mon avis, sur des enjeux fondamentaux, non seulement pour le Québec, mais pour son parti politique avec les engagements de 2022 qui sont quand même très clairs, Pendant ce temps-là, on ne parle plus des valses hésitations de M. Drainville sur la gauche, la droite, puis la souveraineté, puis l'affirmation nationale de son parti au Québec et tout ça. Donc, on met de côté, on ne parle plus des défauts de M. Drainville, on parle des défauts de Mme Fréchette, même si les gens qui l'appuient disent que ce n'est pas élégant, que c'est pas acceptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut... écoute, c'est une chefferie, là. L'enjeu est important. Et moi, je trouve que les questions de M. Drainville sont claires, sont nettes. Et Mme Fréchette, plutôt que de se plaindre et d'envoyer ses appuis dire que c'est vexatoire, devrait plutôt préparer des réponses. Parce que là, dans les débats, si elle arrive avec une mollesse similaire, à mon avis, M. Drainville va marquer des points. Il ne faut jamais prendre pour acquis. Dans une course à deux, là, ça peut basculer assez vite, là. Le fait de refuser certains débats, comme par exemple pour les jeunes, Mme Fréchette a dit non, les jeunes veulent un débat, non. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. C'est vrai qu'elle est en avance, mais en même temps, les candidats dans des courses à la chefferie, même au municipal, qui refusent des débats, ce n'est pas très bien vu. Les gens aiment ça, les débats, surtout quand il y a juste deux personnes, parce que là, on n'est pas 5-6, là, deux personnes. Pour la fonction de premier ministre du Québec, moi, je trouve que ça prendrait des explications parce qu'il y a juste deux débats, mais qu'il y en ait plus ou qu'il y ait des débats qui soient ciblés pour certaines clientèles comme les jeunes, ben, c'est quoi le problème, là? Il manque de temps?
Moi, je pense plus que ce qui arrivera comme prochain sondage déterminera à savoir, ça va être plus déterminé à donner ses positions que de rester sur le banc en attendant qu'il se passe quelque chose. Quand ça va bien, Maître Bellemare...
Je te prédis que Drainville va être en hausse la prochaine fois.
C'est possible. Mais je peux vous dire une chose. Mon grand-père me disait toujours, quand ça va bien, tu touches à rien.
Oui, mais quand il y a quelqu'un sur le siège en arrière qui pousse, c'est différent. Oui.
Racontez-moi cette histoire-là. Bon, on parle de trucs de droit, là. L'histoire de Francine Boulanger et de Régent Carrier, qui, eux, s'étaient trouvé un hobby, c'est-à-dire de devenir influencer sur TikTok. Et ils se sont fait insulter sur le réseau social TikTok. C'est un couple qui est basé à Lévis, de ce que je comprends. Et ils ont réussi à aller se chercher un montant de 80 000 $ dû aux insultes qu'ils ont eues sur TikTok, dû au harcèlement sur ce réseau social-là. Et leur tribunal a décidé d'interdire à ces deux champions de course-là, qui vont devoir payer 80 000, d'interdire toute nouvelle publication sur ces réseaux sociaux-là. Ça commence à être des beaux montants, là, ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux quand il y a des gens qui s'amusent juste à insulter les autres.
Oui, mais félicitations à ces gens-là, parce que je suis de ceux qui pensent que les réseaux sociaux sont devenus des espaces où on peut facilement abuser. Richard Martineau disait que l'Internet, c'est un peu un asile à ciel ouvert. C'est sûr que ce n'est pas tous les malades mentaux qui sont là-dessus. Heureusement, on l'est nous-mêmes, mais il y en a qui profitent véritablement. On l'a vu avec les annonceuses, les femmes qui travaillent dans les sites météo, là, dans les différentes télévisions généralistes, là, qui sont victimes d'harcèlement puis de menaces. Là, puis... Écoute, c'est un fléau. Alors, il y a un code civil qui dit qu'on ne peut pas causer un tort à quelqu'un et qu'on doit le réparer si on en cause un. C'est un principe de base de responsabilité qui s'applique dans les cas comme ça. C'est de la diffamation. On insulte les gens. On affirme toutes sortes de faussetés. On peut même affirmer des fois des choses vraies, mais qui sont non indiquées, non pertinentes. Et le Code civil permet des poursuites en diffamation à l'intérieur de délai d'un an. J'insiste là-dessus parce que la prescription, le délai de poursuite au Québec, depuis que le Code civil a été modifié en 1994, en général, c'est 3 ans. La diffamation, il ne faut pas trop taponner, c'est 1 an. Dès qu'on sait qu'on a été intimidé ou qu'on a été diffamé, c'est un délai d'un an. Fait que c'est ce que ces gens-là ont fait, obtenir un montant qui m'apparaît, bon, je ne connais pas le détail de tous les dommages, de toutes les nuits blanches qui ont passé, de toutes les humiliations à travers lesquelles ils sont passés. Ça a dû être absolument pénible. Mais on sent là, que les tribunaux en ont assez, puis qu'il y a des condamnations qui commencent à ressembler à des sommes assez importantes. Et moi, ils ont toute mon admiration pour avoir réussi à obtenir cette compensation-là.
Puis, ça semble parfois être difficile à trouver les gens là, qui sont dans l'anonymat le plus total sur les réseaux sociaux, mais avec un peu d'argent, on est capable de les trouver assez rapidement. Dans ce cas-ci, c'était sur TikTok et les gens qui les bouliaient, c'était des gens bon, qu'on connaissait, on voyait leur visage, ils étaient sous leur vrai nom, fait que ça a été...
c'est plus facile.
Ben, c'était un peu comme les gens qui commettent des hold-up là, quand il y a une petite neige qui tombe, les policiers ont juste à suivre les traces dans la neige pour retrouver l'argent et les voleurs. Ben, dans leur cas, eux autres, ils ont réussi à le trouver assez facilement. Mais ben, Bellemare, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Puis ça, je pense que cette nuance-là, c'est pas tout le monde qui est au courant. Puis on va terminer avec ça si vous le désirez. Quand on parle de diffamation, ça se peut que la diffamation, dans ce que vous racontez quand vous faites de la diffamation, ça se peut que ce soit vrai. Le problème étant que si c'est su de 4-5 personnes, exemple, je sais pas moi, mon oncle est en couple avec ma tante, mon oncle s'est fait prendre à tromper ma tante, ben moi je deviens le porte-voix de ma tante, puis je m'en vais dans l'entreprise de mon oncle en disant « mon oncle c'est un infidèle », je m'en vais dans son cercle d'amis, « mon oncle c'est un infidèle », je m'en vais sur les réseaux sociaux, « mon oncle c'est un infidèle, il a trompé sa femme », même si c'est vrai, comme j'ai fait grossir l'histoire, j'ai nuit à mon oncle et ça constitue une diffamation?
Oui, ça constitue une diffamation certaine, parce que c'est confidentiel. C'est pas quelque chose qui est d'intérêt public. C'est sûr que si on est un candidat politique et qu'on doit répondre à un certain nombre de questions qui vont aux mœurs ou qui vont aux habitudes, ça peut être pertinent. Mais là, dans une vie privée, mon oncle prend du Viagra, mon oncle a trompé ma tante avec... avec la voisine, c'est pas d'intérêt, pas du tout. Alors, le juge doit regarder ça, regarder l'impact que ça a sur la réputation de la personne et voir dans quelle mesure il y avait une motivation acceptable, un intérêt à ce que cette question-là soit sue. Sinon, la personne peut être considérée comme fautive.
Intéressant. Je ne suis pas sûr que tout le monde était au courant de ce petit point-là. Moi, j'avais... avant de vous connaître, Maître Bellemare, j'étais dans la noirceur. Maintenant, je suis dans la lumière. Je connais de plus de choses concernant le droit, mais j'étais persuadé que pour faire de la diffamation, il fallait mentir automatiquement.
Non, pas nécessairement. La question de la pertinence se pose. Est-ce que tu vas sortir vendredi prochain? Ça va être un vendredi 13, là.
Moi, j'ai pas de problème avec ça, là.
Pas passer en dessous des échelles, ni croiser un chat noir.
Ouais, non, j'ai pas de problème avec ça, Maître Bellemare, là. Vous croyez à ça, vous?
Non, mais le vendredi 13, c'est relié à la Bible, en quelque part, parce que dans le dernier repas, dans la dernière scène, il y avait 13 personnes, c'est Judas qui avait trahi Jésus. Oui. Et on dit que le vendredi 13 provient d'une croyance biblique, comme celle-là, 13 personnes, etc. Puis tu sais que le 13 mars, parce que vendredi prochain, c'est le 13 février, mais le 13 mars, on va avoir un autre vendredi 13 qui est exceptionnel d'avoir deux vendredis 13 dans deux mois consécutifs. C'est très rare, parce qu'il y a 28 jours seulement dans le mois de février.
Intéressant. Mais juste vous dire que je crains moins vendredi prochain que samedi prochain, où ce sera le 14 février, jour de la Saint-Valentin.
C'est un rendez-vous doux.
On s'enverra des fleurs, Maître Bellemare.
Absolument.
Je vous souhaite de passer une super de belle semaine, Maître Bellemare, puis on se reparle lundi prochain.
Merci, à toi aussi.
Pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca. À chaque lundi, on a le plaisir d'être avec l'ex-ministre de la Justice et ce sera comme ça aussi lundi prochain. Je vous souhaite de passer une super de belle semaine puis on se reparle demain. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Moins 25, ressenti moins 30? C'est pas ce qui va arrêter un Beauceron pour profiter de l'hiver. Cette semaine, Boulevard 102.1 et Destination Beauce vous invitent à écouter Marceau le matin pour profiter d'un moment en pleine nature dans la région. Vous pourriez gagner un séjour en Beauce d'une valeur de 650 $, incluant nuitée, délicieux repas et activités extérieures tripantes. Pour participer, inscrivez l'activité recommandée chaque jour au blvd.fm. Boulevard 102.1 et Destination Beauce, partenaire de vos escapades hivernales.
Le tournoi Pee-wee de Québec est de retour du 11 au 22 février au Centre Vidéotron. Venez encourager des équipes Pee-wee de partout sur la planète. Pee-wee, tu veux être là.
T'es dans la construction? Prends action dès maintenant pour obtenir ta licence RBQ. Le groupe GSC forme et accompagne les entrepreneurs partout au Québec. Formation intensive, flexible et adaptée à ton horaire. En classe, en ligne ou hybride. Visite groupegsc.com.
Chez Scoop Vision, on a l'œil pour le style. Vous avez une chose à apporter, votre prescription. Après, on s'occupe du reste. Des lunettes au prix du web, mais avec du service en boutique. C'est le meilleur des deux mondes. Scoop Vision, le style commence par vos yeux.
Expo Moto, présenté par Beneva en collaboration avec les écoles de conduite technique, c'est un salon de la moto plus grand que jamais dans une formule réinventée. Visitez les kiosques de nombreux manufacturiers. Achetez votre moto neuve ou d'occasion sur place, sans oublier le Québec Moto Film Fest et les conférences de Michel Barrette, Hugo Girard et plusieurs autres. Profitez-en aussi pour initier gratuitement les enfants à notre circuit de moto électrique grâce à l'Académie Milolan. De vendredi à dimanche, au centre de foire d'Exposité, place à Expo Moto.
Il manque encore la feuille de temps de Maxime. Jonathan a écrit 40 heures, puis il y avait un férié. Oh, oh. Les erreurs, les feuilles de temps perdues, les bouts de papier qui s'accumulent, ça vous dit quelque chose? Tu veux que ça change? Utilise Mobile Punch, l'application québécoise qui fête ses 10 ans cette année. Plus de 40 000 utilisateurs.
Besoin de plus d'espace, de confort et de sécurité cet hiver? Découvrez le tout nouveau Volkswagen Taos 2023.